très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour et merci de nous choisir puisqu'il sonne 11h, passé de 2 minutes. Vous comprenez sans doute que vous avez rendez-vous avec le débat de l'actualité, bien sûr, sur votre radio. Nous sommes au jeudi 14 mars de l'année de grâce et c'est le quatrième numéro, j'allais dire, de cette émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Vitok-Beitomega assure la mise en onde, Géraud Akucha assure la mise en ligne, je suis au micro Pascal Lossou. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires Radio Lumière à Anéhor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dabaan. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Le Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici. Et d'ailleurs, c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Nous sommes au jeudi et vous savez très bien que l'équipe de jeudi est déjà en place. Magloire Kinviteko, bonjour.
Bonjour à toi, cher frère et confrère Pascal. Bonjour aux confrères ici présents, bonjour à nos amis derrière la veille vitrée, je veux dire les techniciens. Et bonjour à tous nos fidèles auditeurs qui nous suivent actuellement sur Canal FM.
Hello Matisse Obi, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux confrères en studio, bonjour à toutes et à tous.
Jean Le Grand Polérini, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à mes confrères présents en studio, bonjour aux techniciens derrière la baie vitrée, bonjour aux auditeurs et auditrices du Club de la Presse, où qu'ils soient, et un bonjour particulier à tous les lecteurs du journal Canal D.
Ambroise Pondio, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. Bonjour les auditrices et auditeurs de Radio Canal FM. Je voudrais faire cette remarque au niveau des feux tricolores d'Atikoumé qu'on vient d'installer. Sincèrement, ça peut choquer des gens, hein, mais c'est un constat. Et moi, je m'en vais dire qu'il faut enlever ces feux-là.
Pourquoi ?
Il faut enlever ces feux parce que l'on pouvait constater le même embouteillage. Le même bouchon qu'il y a là, alors que les feux tricolores sont faits pour réguler normalement la circulation. Vous imaginez, on vous planque un feu rouge de 75 secondes et vous avez juste 24-25 secondes
de feu vert.
C'est inadmissible. Et vous avez des queues de voitures derrière. Ils sont plus à 200 mètres derrière, 200, 300 mètres. C'est pas possible. Alors que, auparavant, avant ces feux, on s'arrangeait, on s'y habituait. Et mieux encore, nous sommes à un rond-point. Un rond-point n'a pas besoin de feu rouge. Je ne suis pas l'inventeur de comment on appelle ça, du code de la route, mais je sais quand même qu'à un rond-point, chacun savent comment s'y prendre pour y aller. La preuve, il n'y a pas de rond-point, il n'y a pas de feu rouge à Didogomé, il y a certains points. Et là, quand le feu va se désactiver, comme tout à l'heure, je viens de quitter Kégué pour arriver ici, plusieurs feux sont désactivés. Alors la circulation est plus normale qu'avant. Sincèrement, il y a un bouchon pas possible sur tous les matins. Donc les gens s'arrangent, vous vous calmez, les autres passent d'abord. Et il y a des voies qui sont prioritaires. Ceux qui viennent d'Aïdogomé sont plus nombreux. Parce que Aïdogomé, c'est Zangéra aussi. C'est Clémé, c'est Sabado, c'est Sébé, c'est Kato. Ils sont plus nombreux. Donc les gens, au moins il y a un tampon au niveau d'Atikoumé, de la FUSEC. Ceux qui viennent de là, ils peuvent tempérer un peu, comme on a l'habitude de le faire. Mais avec ces feux rouges-là, c'est bien qu'eux aussi ils veulent aider quelqu'un, ils veulent régler un problème, mais ça crée plus de problèmes qu'avant. Il faut qu'ils en réfléchissent pour enlever ces feux rouges là-bas.
D'accord. Et l'homme, vous avez fait aussi le constat, parce qu'on en parlait même le lundi, hein, où des gens se disent, même que, ou les confrères ont dit ici que, mais avec ces feux, il y a plus d'embouteillage dans la circulation, au niveau alors de ces feux rouges du rond-point à Atikoumé.
Oui, je crois quand même que c'est un peu délicat parce que justement on a des policiers qui régulent la circulation à ce niveau. Mais les feux rouges, les feux tricolores qu'on a maintenant au niveau de ce rond-point créent beaucoup plus d'affluence, d'embouteillage. Il va falloir qu'on puisse réfléchir à la manière de faire, parce que c'est vrai qu'on veut prévenir les risques, enfin les accidents, revoir un peu comment les choses vont se faire de ce côté-là, parce que il faut reconnaître que quand les gens arrivent à ce rond-point-là, personne ne respecte la priorité de l'autre. Il y a des gens qui conduisent comme des fous en circulation. Ils viennent parce que quand vous êtes au rond-point, c'est la priorité à droite qui s'applique. Mais les gens viennent, ils s'en foutent de la priorité à droite. Il vient, il rentre enfin, sur la route prioritaire, et puis ils font pas attention de regarder si l'autre a la priorité ou non. Si, parce que si vous êtes sur une route d'intersection et que l'autre est sur une route prioritaire, l'autre, celui qui est sur la route principale a la priorité. Mais vous faites du forcing pour que vous puissiez rentrer en circulation alors que vous ne devriez pas. Et donc, on a voulu, dans une certaine mesure, mettre ces feux tricolores. Mais par le passé, avant même qu'on ait ce rond-point-là, vous vous rappelez, avant même qu'on puisse construire le rond-point à l'époque où la station Total était dans l'angle là-bas, il y avait un feu tricolore dans l'angle de la station Total,
oui,
au niveau de cette rue. Et en venant de Casablanca, il n'y avait pas de feu tricolore. Je ne sais pas où, je me rappelle, peut-être que les auditeurs voudront bien nous rafraîchir la mémoire. Avant de construire le rond-point, avant qu'il y ait le nouveau rond-point là, quand on arrivait au niveau de ce carrefour-là, il y avait quand même quelques feux tricolores. Mais ça ne créait pas de l'embouteillage, c'est comme cela se fait actuellement. Le problème au niveau des feux tricolores, c'est qu'on a 80 secondes de feu rouge et on a 20 secondes de feu vert. Mais comment on peut faire des choses comme ça? Comment on peut faire des choses comme ça? J'ai donné l'exemple du collège protestant la dernière fois. Mais en arrivant de la poste Tokoué Habitat, mais vous êtes dans le feu rouge, vous avez un feu rouge qui vous affiche 60 secondes. Et puis le feu vert c'est 10 secondes. Mais comment on peut rouler comme ça? Non mais c'est pas normal. Comment vous allez avoir un feu rouge de 60 secondes, une minute, et vous avez un feu vert de 10 secondes? La personne fait comment? Les gens vont violer le feu tout le temps. Et puis gare au policier qui va l'interpeller. Mais la personne s'arrête 60 secondes. Et vous lui demandez en 10 secondes de faire des manœuvres, alors qu'il y a au moins 4 ou 5 voitures devant lui. Le temps que les 4 voitures, les 2 qui sont devant, ne démarrent pour. Le feu est déjà rouge.
D'accord.
Mais alors que les gens respectent quand même les feux. Mais il y a ces inégalités là au niveau des feux rouges, il faut corriger ça. Nous, on n'est pas spécialiste de la prévention routière ou de la sécurité routière. Mais il faut que, si on a 60 secondes de feu rouge, on ne demande pas forcément qu'il y ait 60 secondes de feu vert. Mais il faut que ça soit raisonnable. 60 secondes de feu rouge et 10 secondes de feu vert, on a vu ça où?
Je pense que c'est sur des calculs bien définis, non? Ou bien, Magloire,
oui.
Est-ce que il n'y a pas un calcul ou un réglage bien défini sur la base duquel on arrive à faire cela?
Normalement, ça devrait être ça. C'est pour ça, justement, que beaucoup d'observateurs disent que la question des feux rouges aujourd'hui, sinon les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui dans la circulation, c'est dû beaucoup plus au paramétrage. C'est-à-dire que normalement, comme les amis, les confrères l'ont dit, par exemple, vous prenez le tronçon qui quitte Zanguera jusqu'au centre-ville. Normalement, dans la matinée, par exemple, la priorité est pour ceux qui rallient le centre-ville parce que beaucoup viennent au boulot. Mais vous allez constater que, comme ils l'ont dit, le temps que prend le feu rouge est relativement plus long que le feu vert. Ça voudra dire que logiquement, on ralentit, n'est-ce pas, la circulation. Et ça voudrait être plutôt, ça devrait être plutôt le contraire. Et c'est vrai, nous on est des néophytes à la matière, mais quand même nous raisonnons. Et si on installe des feux rouges, au lieu que ça facilite la circulation, au lieu que ça rend la circulation plus fluide, on constate plutôt que ça ralentit les choses, mais il y a lieu de se questionner. Et c'est justement ce que nous essayons de faire. Mais plutôt peut-être que de prendre ça comme des critiques vis-à-vis de ceux qui gèrent la circulation routière au Togo, ce ne sont que des idées, des propositions qu'on émet à leur niveau pour voir si on ne peut pas agir autrement, c'est-à-dire sur la question du paramétrage, est-ce qu'il ne faut pas changer d'approche un peu pour laisser couler du moins ceux qui devraient rallier, pas que le centre-ville, mais qu'on donne la facilité ou la latitude à ceux qui vont à un niveau donné de prendre le temps qu'il faut plutôt que de les ralentir, parce que je crois que c'est là où le problème se pose. Un feu rouge qui fait 75 secondes et le feu vert 10 secondes, vraiment, il y a sujet à réflexion.
Et le mal, c'est qu'il y a certains alors de ces feux tricolores qui ne s'allument même plus. Et au-delà de cela, dans la capitale aujourd'hui, avec les coupures intempestives, on voit toujours que, on remarque quand même que déjà, il y a ces feux qui ne s'allument plus. Et finalement, ça donne quand même de l'embouteillage. Et beaucoup de journaux sont revenus alors sur cette coupure intempestive que nous subissons depuis un temps où
les populations subissent depuis un temps. Et il y a des journaux qui sont revenus là-dessus. Il y a le journal L'Intelligent qui est revenu sur le sujet ce matin. L'Intelligent titre à sa une, électricité au Togo, le pire est à venir. Et également parler des établissements publics administratifs, les mauvais payeurs. Et aussi, autre journal qui parle également de cette coupure, c'est Canal D, Jean Le Grand Polérini. Vous titrez à votre une du, enfin, aujourd'hui, Togo, crise énergétique, ça va de mal en pire, les accusés à la barre. Dans un éditorial, Magola, vous écrivez plutôt le noir électrique. Jean Polérini, nous allons dire qu'avec cette situation, puisqu'entre-temps, il y a la Sûreté qui nous a annoncé qu'il y aura d'amélioration. Oui, on a commencé par retrouver d'amélioration, mais c'est comme si le pire, on est en train de subir le pire aujourd'hui.
Oui, Pascal, tu l'as si bien dit, et nous l'avons titré, ça va de mal en pire, parce que après le communiqué de la Sûreté, nous nous attendions véritablement à avoir quelque chose de mieux, mais force est de constater que presque un mois plus tard, on nous a dit que les travaux au niveau du Ghana et du Nigeria allaient prendre fin, les travaux d'envergure.
Les travaux de maintenance.
De maintenance, voilà, d'envergure de maintenance, mais force est de constater que, ma foi, la situation devient très, très compliquée. Vous imaginez des quartiers où on coupe le courant plus de 10 heures à 12 heures d'affilée. Par jour, il y a une zone où on a coupé deux fois, c'est-à-dire on a coupé mardi, on a coupé mercredi. Je ne sais pas comment mes confrères en studio aujourd'hui ont fait pour boucler leur journal hier.
Il y a le journal Ouara les vainqueurs, j'appelais Michel hier, on discutait, et il m'a dit même d'ailleurs qu'il ne peut pas sortir ou ne peut pas paraître aujourd'hui parce qu'il y a des lestages.
Mais je vous dis, si je vous explique les conditions dans lesquelles nous avons paru, vous ne pourrez pas croire. C'est-à-dire, il fallait. Je dis peut-être que le spirituel est intervenu. Parce que c'était carrément impossible. C'était pas possible. Vous êtes là, vous êtes privé de courant pendant 8 heures d'affilée. Vous écrivez vos articles comment? L'infographiste bosse comment? Et l'imprimerie? Certains même ont envoyé à l'imprimerie, mais ce n'est pas encore sorti. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de nos journaux ne sortent pas rapidement. Et ma foi, il faut dire quand même que beaucoup de Togolais ont pris le communiqué de la CET avec des pincettes, parce qu'on s'est dit, bon, bien sûr, il y a des travaux de maintenance, mais après quelques semaines, du moment où ça s'empire, c'est qu'il y a un autre problème. Et la récente sortie de la direction du Trésor public est venue conforter ce que beaucoup d'autres pensaient. C'est qu'il y a d'autres choses peut-être en dessous dont nous ne sommes pas informés. Notamment quand on parle de ces établissements publics et des communes qui ne paient pas leurs redevances à la société. Mais moi, j'ai dit, mais c'est incompréhensible. Pourquoi est-ce que certains Togolais, une catégorie, vont faire priver les autres à cause des frais de l'électricité qu'on ne paye pas? Mais c'est incompréhensible. Et quand vous faites un tour au niveau de ces administrations, remarquez bien, parfois les clims sont allumés. Les gens partent le week-end, les clims sont allumés. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est l'État qui paie. Et aujourd'hui, à cause de ce problème, nous tous nous en pâtissons. Et non seulement ça, il y a chez certaines personnes que nous ne pouvons pas nommer X, Y, mais on ne coupe pas le courant là-bas. Même quand il y a un pays, bon, qui est le... Toi, quel courage tu as pour aller couper? Et ces gens ne payent pas. Mais personne ne peut aller les interpeller. Vous voyez un peu? Aujourd'hui, Michel n'est pas là, mais c'est lui qui dit on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que certains Togolais sont privilégiés par rapport à d'autres Togolais? Moi, j'ai dit aujourd'hui, il faut que vraiment on commence par punir les gens. Il faut que le chef de l'État tape du poing sur la table, qu'on trouve une solution définitive à ce problème. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que la coupure du courant est devenue le sport national favori quotidien. Et aujourd'hui, vivre au Togo, je vous dis, vivre au Togo, c'est comme déjà vous êtes un handicapé. Quand vous vivez au Togo, c'est-à-dire en deux mois là, vous êtes déjà handicapé, même avant qu'il y ait un autre handicap. Les commerces sont en train de souffrir, les entreprises souffrent. Nous qui sommes des acteurs, aujourd'hui, il n'y a plus rien que vous pouvez faire sans le courant électrique. Et quand il n'y a pas de courant, c'est qu'il n'y a pas de connexion Internet pour ceux qui ont le Wi-Fi. Vous imaginez l'impact que cela va avoir. Moi, je dis qu'il faut qu'aujourd'hui, au niveau de ces administrations publiques, on installe des compteurs prépayés. Quand il y a le compteur prépayé, vous ne payez pas, vous n'avez pas de courant. Mais on ne peut pas attendre que vous consommez
Après, on est derrière vous, à vous harceler, à vous harceler. Vous imaginez toutes ces administrations-là. Quand on met un compteur cash power, vous savez que vous avez 100 000 de consommation le mois. Vous mettez ce que vous devez consommer. Ça finit, ça coupe là. Vous allez en commettre. Mais on a imposé ça à presque tous les citoyens. Aujourd'hui, même au niveau de la connexion Internet, que ce soit Togo comme Canal Box, c'est le prix payé. Parce qu'on sait que quand c'est comme ça, les gens payent. Mais qu'on applique ça à ce niveau et qu'on sanctionne ce qu'on doit sanctionner pour que tous les Togolais soient à l'aise. Parce que la majorité ne peut pas souffrir pour la cause de certains seulement.
D'accord. Ambrage, c'est vrai que tout au début, la CET nous a dit que c'est les travaux de maintenance qui sont à la base alors de ces coupures intempestives. Et après tout, c'est la CET qui nous disait également que non, il y a maintenant amélioration. Mais tout récemment, avec la direction générale du Trésor public, on comprend tout simplement qu'avec ces dettes ou ces impayés, que la CET est plutôt endettée.
Vous savez, c'est moi, tout ce qui se passe dans ce pays avec la CET me fait croire que le problème même est plus profond que ce que nous imaginons. Le Togo n'a jamais vécu ça, hein. On n'a jamais vécu ça. Ce que nous vivons actuellement est un frein au développement, parce que quelqu'un l'a dit, ceux qui sont dans les frigos, ceux qui sont dans leur ateliers de soudure, ceux qui sont dans les ateliers de mécanique, ceux qui sont dans les ateliers de l'électricité, ceux qui font les photocopies, les infographistes, ceux qui font même la presse, tout ça là, c'est tout à base de l'énergie. Donc ils sont actuellement aux arrêts. Et vous imaginez, vous n'imaginez pas ce que j'ai souffert avant que ce journal le sorte ce matin. J'ai écouté mes confrères le dire. Mon journal aurait pu sortir vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je vous donne juste mon exemple. Ce que je n'ai jamais vécu depuis 10 ans que j'ai commencé par sortir ce journal. La zone dans laquelle, pas quand même chez nous, vers Dogomé, c'est que non. La zone, c'est vers quelque part ici, dans laquelle moi je monte. Ils ont coupé. J'ai tout prévu. J'ai tout envoyé déjà à 11h. Pour qu'avec cette coupure-là, je puisse être à jour jusqu'à 16h, je finisse. Parce que je m'en fous, quoi. Ça y est, mes articles, tout est prêt. Même s'il y a un conseil des ministres où Jésus-Christ est arrivé, je ferai tout pour que je puisse le dire au lieu que ça paraisse dans le journal. Donc j'ai tout fait. Et on a commencé par monter depuis midi jusqu'à... On a fini. La une, tout est fini. Donc juste quelques petites corrections que j'ai notées après tirage. On va intégrer l'eau. On a coupé à 15h. Je me suis dit que bon, comme des fois ils remettent ça à 30 minutes, une heure de temps, on va espérer pour que ça puisse se faire, parce que l'imprimerie aussi, je dois aller à l'imprimerie aussi.
Et vous essayez dans l'espoir.
Ne sachant pas le cas, les conditions dans lesquelles l'imprimerie se trouve actuellement. Je suis resté là de 15h. Et c'est à 18h, j'ai décidé de partir. Mais je me suis dit que je suis allé à l'imprimerie, j'ai constaté qu'il y a la lumière. C'est juste à côté, à 1 km. Hein. Il y a plusieurs maisons qui ont l'électricité à côté, mais ceux qui sont vers ici n'ont pas d'électricité. J'ai dit, mais tiens. Mais si la CET coupait 2 heures, 1 heure et dispatchait, c'est pas mieux. Parce que ceux qui sont ici auront besoin de l'eau. Juste à boire à la maison, ils ne trouveront pas. Ils sont obligés d'aller dans d'autres quartiers pour aller chercher de l'eau. Maintenant, ils laissent les gens végéter dans le noir pendant 6 heures de temps.
8 heures.
8 heures de temps. Voire chez nous, à Kato là-bas, on a fait 24 heures. On a même fait 48 heures. Ça, c'était un incendie qui s'est produit. Et là, je les remercie d'avoir. Parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus de. Les vieux sont partis. Les techniciens chevronnés ne sont plus à la CET, c'est les jeunes qui sont là. Et j'ai dit ici qu'il faut ramener ces vieux-là, comme les militaires le font souvent. On ramène les retraités. Maintenant, si on peut nous ramener ces vieux-là pour régler certains problèmes de dépendance, c'est bien. Maintenant, au niveau de la CET, concrètement, ce qui pose le problème, Ferdinand avait sorti un truc disant que c'est des barons, c'est telle personne qui ne paie pas. C'est aussi un problème. Mais je crois qu'il y a aussi un autre problème qu'on ne nous dit pas. Et ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que la CET ne communique pas suffisamment. Si un problème, vous servez des clients, et que les clients ont tout le temps des dommages dans leur maison, le frigo qui ne marche pas, et les poissons qui sont là, qui deviennent avariés après 6 heures de temps, et ça crée des dommages sanitaires à ceux-là qui viendront acheter ces poissons-là, surtout chez les fournisseurs, et aller manger à la maison. Ça va créer, parce que les batteries rentrent après 3 heures, 2 heures de temps, les batteries rentrent en même temps, on ne les voit pas à l'œil nu. Mais on sait que quand on coupe l'électricité et que le frappe part, les batteries rentrent dans ces produits surgelés ou congelés là. Comment on va faire maintenant? C'est le problème, c'est de porter plainte. C'est de faire constater par un huissier. Ça, je le dis, les gens, ils savent que les gens, les Togolais, ils ne sont pas habitués à la plainte. Aujourd'hui, là, il faut qu'on vous, on renforce vos capacités pour savoir comment faire pour porter plainte devant, comment, les services contentieux de la CET. Parce que la CET, selon nos informations, elle jette des milliards à l'assurance. Mais l'argent pourri là-bas, eux, ils surfent là-dessus. Les gens ont fait six accidents avec leur moto. L'assurance, personne ne vient demander tu as une telle facture. Maintenant, nous, qui avions des dommages et intérêts au niveau des coupures d'électricité, ayons le courage d'appeler un huissier et de constater que la télévision est grillée, le congélateur est grillé, la radio est grillée, et on dépose, avec le constat que le huissier fait, on dépose devant, comme on a fait le service contentieux de la CET, quitte à eux de trouver les mécanismes, si ces deux sont retrouvés devant le juge administratif, on règle ce problème-là. Pour que ça serve de leçon à la société. Parce que vous ne pouvez pas couper l'électricité à quelqu'un qui doit payer 2000 francs. Alors que des gens ont plus de 50 milliards, millions à payer, vous les laissez comme ça utiliser le courant électrique. Je rejoins pour finir ce que mon confrère Jean a dit, que ceux-là, ceux qui sont dans les grands, dans les grosses industries là, ceux qui ne paient pas là, les patrons là, les barons là, il faut leur placer le prix payé. Quand tu consommes tes 600 mégawatts, nous qui consommons peut-être 43, après une semaine, ça finit là. 600 là, quand c'est fini là, il faut acheter. Tu n'achètes pas, tu n'as pas de lumière chez toi. Soit tu as un groupe électrogène, point.
Magloire, nous sommes vraiment dans un noir électrique, tel que vous l'avez écrit dans votre éditorial. La situation devient compliquée, hein?
Oui, bien entendu, ça devient compliqué parce que le monde même tourne sur la base de l'énergie en réalité. Parce que voyez-vous, quand vous prenez le Togo même, sa politique énergétique, aujourd'hui, on ne peut plus faire sans l'énergie. Il n'y a pas longtemps, on a procédé justement à l'ouverture justement de la plateforme industrielle à Détitopé, la PIA, et c'est un projet d'envergure. Mais aujourd'hui, le pétrin dans lequel tout le Togo se retrouve, ça n'arrange pas l'État togolais en réalité. Parce que ça freine l'ambition de l'État. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre qu'on peut avoir des projets grandioses comme la PIA, par exemple, et on va se dire dans la tête que ben, un si vaste projet comme ça va tourner à base du groupe électrogène. Ça n'a pas de sens. C'est en cela, justement, que je rejoins les confrères en disant, mais attends, vous l'avez dit, la société nous avait parlé de maintenance au début, mais c'est quelle maintenance qui ne finit jamais? C'est quelle maintenance? Et ça prouve, les jours qui ont suivi ont prouvé à suffisance que l'argument avancé aux premières heures était juste un alibi. Parce que moi, je me rappelle que le confrère, comment le nom m'échappe un peu.
Quel confrère? Vous voulez parler de. De qui? Allez-y.
Oui, non, pas Ferdinand, son second là, les musulmans.
Abiy Alpha. Le rendez-vous.
À qui je fais coucou au passage. Il avait sorti un dossier et c'est lui qui a révélé au prime abord que la réalité, c'est que le vrai problème que la société a, et il n'y a pas que la société, mais différentes sociétés de l'État comme la T2 par exemple, c'est qu'il y a beaucoup d'impayés et il se trouve que c'est beaucoup de gens sont des barons, c'est-à-dire ceux qui doivent à l'État au-delà des institutions de la République, des services publics, les personnalités qui sont mises en cause véritablement sont des gens qu'on ne pouvait pas inquiéter si facilement. Et aujourd'hui, nous voilà où nous en sommes. Et dans notre éditorial justement, nous l'avons dit que nous sommes dans un noir électrique. Et plus loin, nous nous sommes posé la question de savoir, mais justement, à quoi ont servi ces projets gigantesques que le Togo a inaugurés? On a parlé dans ce pays, n'est-ce pas, de contour global. Ça fait quand même 100 milliards de francs CFA que le Togo a englouti dans ce projet. Et à la base, on nous a dit que ça allait aider le Togo à plus de 50% à être indépendant en termes de production énergétique. Mais aujourd'hui, si nous en sommes ici, ça voudra dire que quelque part, quelque chose n'a pas marché. Après, contour global, nous avons eu Kekeli Efficient Power, 85 milliards de francs CFA. Ça, c'est que à un moment donné, l'État quand même a déboursé assez d'argent. Et en retour, on doit avoir des résultats. Mais aujourd'hui, ça prouve que tout l'investissement qu'il y a eu, quelque chose ne cloche pas quelque part. C'est en cela, justement, qu'il faut maintenant avoir la main lourde. Quelqu'un qui doit à l'État, il ne faut plus faire dans l'à peu près, dans la légèreté. Et le confrère Ambroise l'a dit tout à l'heure, pour les pauvres citoyens que nous sommes, pour peut-être 5 000, 7 000 francs, on peut te couper le courant. Mais au nom de quoi un citoyen ordinaire comme nous, qui jouit également des mêmes droits comme nous, peut devoir à l'État plus de 50 millions et on le laisse. Jusqu'à ce que ça soit le trésor public qui sorte un communiqué entre guillemets pour menacer ceux qui doivent à l'État. Je me dis, normalement, c'est du rôle de la CET. Mais si la CET se voit dans l'incapacité de réclamer ce qu'il lui doit, je me dis, il y a problème. Parce qu'en réalité, la CET, le communiqué que le trésor public a fait sortir, normalement, ça incrimine indirectement la CET. Parce que je me dis, mais vous savez que les gens vous doivent et vous vous taisez. Mais il faut agir. Parce que vous et nous, on ne demande pas notre avis avant de nous couper le courant, n'est-ce pas? Pourquoi eux là, on les relance une fois, deux fois, trois fois, ils ne réagissent pas et la société se tait?
Mais oui, Magla, là peut-être la société aussi se voit dans l'incapacité.
C'est ce que je dis, c'est un aveu d'impuissance. C'est un aveu d'impuissance et c'est pour ça que je dis que la société n'a qu'à arrêter de nous sortir l'hypothèse de maintenance. Ce n'est pas une question de maintenance. Parce que ce n'est pas seulement au Togo que le Nigeria ou le Ghana fournissent de l'électricité. Pourquoi dans d'autres pays, au premier abord, on a voulu distiller délicatement dans l'opinion comme quoi c'est la CAN qui se joue
en Côte d'Ivoire
qui fait qu'il y a des lestages par moment chez nous. Mais ça fait un mois passé, la CAN est finie. Pourquoi nous en sommes là? Donc, je crois que la société doit renaître de ses cendres. Vous êtes une entité dotée de pouvoir, agissez. Quelqu'un vous doit, fut-il ministre, même le chef de l'État, mais si dans sa maison privée, il doit la société, on doit le couper. Ah oui, on doit le couper. Mais si vous ne le faites pas et que vous vous cachez, c'est le trésor public qui vient parler à votre nom, c'est que vous avez échoué.
Non, d'accord. Il faut comprendre ce que Magloire dit, parce qu'il y a tellement de pesanteur dans cette affaire que, j'ai dit tout à l'heure, toi qui vas aller couper là, c'est toi-même ta tête qu'on va enlever tout à l'heure. Parce que on va te dire que X est le cousin du frère, de la camarade, de la maman de qui? Toi, tu as quel pouvoir pour le faire? Mais c'est comme ça, c'est compliqué.
Mais là, ce qui fait que la loi, c'est les autres qui en souffrent. Hein?
Oui, c'est ce que j'ai dit, nous en souffrons. Parce qu'à un moment donné, on ne veut pas faire appliquer la loi à certains. Et que certains se croient au-dessus parce qu'ils ont des relations, ils ont des acquaintances avec X, Y. Or, la loi est faite pour nous tous. Il ne doit pas avoir des Togolais privilégiés par rapport à d'autres. C'est ce que nous condamnons, en fait. Mais, ma foi, nous allons parler ici. Mais quel pouvoir nous avons? Nous interpellons. Combien de fois nous n'avons pas interpellé? Mais à un moment donné, on trouve que non, vous les journalistes, vous parlez trop. C'est pourquoi quand nous faisons des erreurs, on nous frappe directement pour que nous nous taisons et que les autres continuent.
D'accord. Et alors, c'est vrai que beaucoup de gens, des journaux surtout, sont revenus sur l'interpellation même d'ailleurs de la ministre de l'Énergie. Il y a le journal La Lanterne qui titre à sa une aujourd'hui, accès à l'électricité pour tous, le projet Tenga officiellement lancé à l'État, éviter que le mécanisme tombe en désuétude comme les autres sources d'énergie du pays. Il y a le journal Le Tonnerre qui titre aussi délestage, le problème persiste pendant qu'on cherche l'électricité à Lomé, la ministre Aziablé danse à Sokodé. Et chronique de la semaine qui vient plutôt dire coupure intempestive d'électricité au Togo, le ministère de l'énergie et la société accusés à tort.
Bon, vous savez, je pense que Jean a dit quelque chose tout à l'heure. Il a parlé justement de ce communiqué du trésor public. C'est vrai que c'est une vieille plaie, cette histoire des factures impayées de l'administration publique. Il y a eu un manager à la CET qui, en son temps, ne laissait pas des choses comme ça se passer, quoi. Vous comprenez? Et c'est sous ce manager, justement, que la Poste ne percevait plus ses 100 francs, 200 francs sur les factures à payer à la Poste, là. C'est-à-dire, quand vous alliez à la Poste, à part la facture que vous devriez payer, la Poste vous prenait 100 francs ou 200 francs. Il avait fait arrêter ça. Que c'était incompatible. D'accord? Maintenant, par rapport à l'administration publique, il y a eu quand même des mécanismes. Aujourd'hui, on a l'impression qu'à la CET, on n'a pas les bonnes personnes au bon poste. Vous comprenez? C'est une question de profil et d'amour de ce que vous êtes en train de faire. C'est tout ce qui enrhume la machine. Les problèmes sont là. Les problèmes de la CET ne datent pas d'aujourd'hui. Mais à des moments donnés, il faut faire un nouveau système de management, replacer les pions. C'est tout ce que vous devriez faire pour évoluer. Quand vous avez des gens qui sont à des postes qui ne sont pas véritablement à leur poste, ça pose un certain nombre de problèmes. Quand les gens ne sont pas capables de faire des prévisions annuelles ou de se projeter dans le temps en faisant une prospective dans 2 ans, dans 3 ans, on va avoir tel problème. Mais la VRE qui fournit le Togo et les autres pays qui fournissent le Togo, ils ne se lèvent pas du jour au lendemain pour faire une cessation. On peut faire des travaux de maintenance, mais si on va avoir des problèmes dans 5, 6, 7 mois, ces fournisseurs préviennent quand même pour dire que, attention, dans 6 mois, on va avoir un petit creux. Donc, vous prenez toutes vos dispositions. Maintenant, on nous a toujours parlé de contour global. Tous les fonds qu'on injecte dans cette affaire de contour global, en fait, en réalité, c'est par là qu'il faut aller chercher aujourd'hui. Parce que si les petites sommes ou les montants dont la CET dispose aujourd'hui sur ses comptes doivent servir à verser 5 milliards à cette institution qui ne nous fournit pas aussi de l'énergie, il faut le dire, on préfère plutôt alimenter les pots sous ou les renouveler, parce qu'on a un problème de trucs là aussi, des postes sources qui sont vieux, vous comprenez? C'est-à-dire on a des postes sources qui alimentent la ville de Lomé qui sont quand même vieux. Et il y a un projet qui s'appelle, je pense que c'est pas le PERES, ça doit être le PRISET, qui va consister justement avec le concours de la Banque mondiale à renouveler ces postes sources-là. On en est là. Aujourd'hui, on a un problème de baisse dans plusieurs quartiers de Lomé. Tous les quartiers, pratiquement, les nouveaux quartiers, Adéti, Kopé, en allant, en passant par Kégué, et la Adido Gombe, Sabado, Verge, chez Ambroise, là-bas. Mais toutes les lignes subissent aujourd'hui une forte baisse de tension. Mais vous êtes à la maison, la nuit, vous allumez peut-être un petit ventilateur. Hein. À un moment donné, vous constatez que le ventilateur s'arrête. Mais il n'y a pas eu coupure. Et à quelques minutes après, ça reprend. Mais tout ça, c'est des problèmes. Et on a ces genres de problèmes. Et on doit verser des milliards à une société par mois qui doit quand même essayer de nous fournir de l'énergie, qui ne le fait pas. Aujourd'hui, il faut faire un arbitrage. Quand la société, quand on signe des contrats du genre, c'est en PPP, en partenariat public-privé, mais on connaît aujourd'hui le prix du fuel sur le marché. Mais pourquoi on ne fait pas un appel d'offres pour permettre justement à Contour Global de faire tourner son affaire au fuel? Pourquoi on va lui verser directement? Mais c'est la CET qui achète du fuel. Mais on fait un appel d'offres pour avoir l'offre la moins disante et on réduit les charges. Et maintenant, dans le PPP en question, il y a des spécificités. Par exemple, pour faire tourner, je ne vais pas donner trop de détails parce que c'est pourquoi j'ai dit, il faut véritablement les bonnes personnes au bon poste.
D'accord.
Quand vous avez des PPP, la société vous dit, pour faire tourner telle turbine, on a besoin de 3, 4, 5 personnes. Ta, ta, ta. Mais est-ce que la société fournit ces personnes? Non! Mais la société ne fournit pas. Mais la société vous prend quand même de l'argent. Au-delà de ça, il faut que les institutions de l'administration publique payent. C'est pas, comme Magloire l'a dit, c'est aussi la faute à la CET. Faut pas que le trésor sorte se communiquer et puis ils vont se taire. Non, non, non. Il faut des managers efficaces. Je suis désolé. Mais c'est vrai que la CET est une société d'État. C'est pas une société privée. Les institutions dont il s'agit sont des institutions de l'État aussi. Mais quand on vous dit de payer, vous ne payez pas. On ne va pas aller jusqu'à couper le courant parce que c'est une institution quand même de l'État. Elle a besoin quand même de servir les citoyens. Qu'est-ce qu'on fait? Mais on va au haut niveau. Vous comprenez? Il y a des mécanismes de recouvrement de fonds, mais on ne va pas quand même apprendre ça aux gens, quoi.
D'aucuns disent que pour ce qui concerne surtout ce communiqué ou cette note d'information que le Trésor public a fait sortir, que ça ne devait pas avoir lieu sinon, puisque le Trésor a une subvention même d'ailleurs pour ces structures, ces établissements publics. Donc il suffit simplement de prélever alors l'argent sur la subvention.
Oui, mais pour prélever de l'argent sur le compte de quelqu'un, il faut le prévenir.
Je pense que cela a été précisé dans le communiqué dès la fin. Mais ce que j'ai tenu à appuyer, c'est la question même des compétences et du management de la gestion de la CET. Parce que cette question, ça revient souvent. Vous savez qu'il peut aussi y avoir des gens qui sabotent allègrement et intentionnellement pour justement retrouver le poste que l'autre. Ah, et qu'il pensait qu'il devait le revenir. Parce qu'il y a des choses comme ça. J'ai toujours renvoyé cette balle là au niveau de Togo. Togo, comme quand Atia Diafo était parti, il y a eu jusqu'à présent Togocel Tang. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez remarqué, ce qu'on appelle Togocom là, c'est quand ils sont deux maintenant que le problème persiste. Maintenant, si au niveau de la CET, il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas à des postes et qu'eux-mêmes ne peuvent pas le dire, mais qui est un audit de management administratif pour savoir telle personne est à tel poste, est-ce qu'il tient à ce poste-là? S'il ne tient pas, mais si c'est le DG même qui pose problème, là, il faut l'élaguer et trouver une autre personne. Parce que moi, je ne le connais même pas, je ne l'ai jamais vu. Mais je me dis quand même que peut-être il saute dans les eaux et il s'évertue pour que la chose soit ce qu'elle est. Par le passé, au temps de Yeteli, Kakati et autres, le problème était là, mais pas à ce degré-là. Mm-hmm. Pas à ce degré-là.
Et donc, il n'y avait pas de mouvement en tant que tel pour dire qu'il y a des syndicats qui sont en train de fermer la porte parce qu'ils réclament des primes. Vraiment, on n'a jamais écouté des choses comme ça.
Et donc, aujourd'hui, il est clair qu'il y a une situation qui frise aussi le conflit de responsabilité au niveau des postes centraux, certainement. Il y en a qui sont compétents. Moi, je connais des gens
très compétents,
mais qui sont pas au bas poste, mais qui sont quand même proches du DG, mais qui peut aussi valablement jouer le rôle. Mais c'est pourquoi j'ai toujours dit au départ que le problème, même au-delà de ce que nous venons de soulever, peut-être n'est même pas à ce niveau. C'est un problème de gouvernance au niveau du sommet de l'État.
Et c'est plus profond.
C'est plus profond et c'est le sommet de l'État qui doit réagir. Vous savez qu'il y a des anciens ministres qui sont là depuis que moi je suis né. Il y a des anciens ministres qui sont peut-être toujours dans le conseil d'administration. C'est non circulaire. Les mêmes personnes se retrouvent dans le conseil d'administration de la SNPT, les mêmes personnes au niveau de la caisse de sécurité. Comment un pays peut évoluer comme ça? Et un pays de 8 millions d'habitants qui en souffre déjà, question d'énergie. Nous ne sommes pas en Égypte, nous ne sommes pas au Nigeria,
ni en Afrique du Sud.
Ni en Afrique du Sud. Mais nous sommes un petit pays à immense richesse de 8 millions d'habitants. Mais on, l'énergie, qui est le socle de développement, on n'arrive pas à fournir aux citoyens. C'est extrêmement grave. Et maintenant, que voulez-vous que les gens fassent pour pouvoir payer l'impôt? Parce que celle qui vend les problèmes, les poissons dans le frigo là-bas, elle a des problèmes actuellement. Parce qu'il n'y a pas le courant pendant 6 heures de temps. Ce qu'elle doit vendre la journée là, elle en partie. Et le manque à gagner, qui va rembourser ça? Mais l'OTR, la mairie, eux n'entendent pas ça de leur oreille. C'est clair. vous voyez ça?
Voilà.
Ce qui peut dire que certains risques, certaines institutions de l'État risquent de s'enrichir alors que le citoyen, lui, va s'appauvrir.
D'accord.
Du manque de l'énergie.
Et quand nous avons fini de dire tout ce que nous avons dit là, nous sommes dans un pays où nous avons des députés. Nous avons des députés payés sur le dos du contribuable. Ils ne peuvent pas interpeller la société. C'est-à-dire, qu'on vient nous expliquer quel est le problème. Parce que tout ceci, nous supputons, nous apprenons, nous faisons quelques points. Mais seuls eux,
ils sont occupés par la
s'asseoir.
Les députés dont tu parles actuellement là, ce n'est pas ton problème là qui les préoccupe. C'est la modification
constitutionnelle. Ce n'est pas le seul problème des gens, mais c'est toute la population.
Oui, c'est le problème qui les préoccupe actuellement là. C'est la modification constitutionnelle d'augmenter le mandat de 5 ans à 7 ans qui préoccupe les députés. C'est pourquoi j'ai dit ces messieurs là, c'est des viveurs de l'air, c'est les gens qui ont pris un bic bleu, on a pris un papier blanc, on a mis toi, tu vas rester ici à vous, l'autre à Dany. C'est ça.
Merci beaucoup, Ambroise. Oui, Jean.
Non, j'ai parce que bon, il m'a coupé.
Le problème que vous évoquez, Jean, le problème que vous évoquez, vraiment, c'est, je pense que c'est sérieux ce problème parce que même on se souvient déjà en Côte d'Ivoire, entre temps, quand il y avait eu même d'ailleurs de coupures d'internet, je sais qu'il y a un député seul qui s'est levé et a fait même d'ailleurs des manifestations et autres. Mais comment se fait-il que cela ne se passe pas chez nous?
Mais c'est la question que nous nous posons tous. Nous avons élu des gens qui disent qu'ils sont censés contrôler l'action gouvernementale. Oui. Mais c'est un contrôle ça? Mais c'est-à-dire que ça tombe de nu. Depuis 2 mois que nous en parlons, mais rien n'est fait. Mais les gens là devant sont réunis, qu'ils ont fait une rentrée parlementaire. Mais personne n'a abordé cette question. Et jusqu'aujourd'hui, on est là, on tourne en rond. À quelle sauce serons-nous mangés? Personne, on dirait que les gens veulent juste être reconduits, chacun garde son gombo, et nous souffrons. D'accord. En tout cas, que les Togolais sachent demain qu'ils vont voter et qui pourra défendre leurs intérêts. Parce que on en a marre. On ne sait pas pourquoi on a des députés, mais personne ne peut prendre ce problème à bras le corps pour interpeller la société. Là,
c'est qui ne va pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Nous allons
marquer. Bon, Pascal, c'est un sujet qui nous tient à cœur.
Ça tient à cœur à tout le monde. Ça tient à cœur à tout le monde, je le sais. Nous allons marquer une pause, on revient juste après. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la presse de ce jeudi et nous débattons même d'ailleurs des sujets surtout. Enfin, ce qui concerne surtout l'électricité dans notre pays, nous savons très bien que cette question touche pratiquement toute la population. Je sais que les uns et les autres veulent toujours alors continuer par débattre alors sur le sujet, c'est important. Mais je voudrais plutôt qu'on parle un peu de l'état d'urgence sécuritaire hein, qui a été prolongé au niveau des...
Je crois qu'on a encore peut-être une ou deux choses à ajouter, en tout cas moi personnellement.
Oui, par rapport à l'électricité.
Oui, justement, parce que vous savez, on en parle, oui, mais au niveau même de la communication à la CET, je crois qu'il y a un problème. C'est vrai qu'on nous avait parlé entre-temps des travaux de maintenance, comme Magla l'a dit. Mais je crois que ce communiqué est arrivé trop vite. Parce qu'après ce communiqué, la situation qui a suivi était pire que ce que nous vivions. Donc ça voudra dire qu'il y a un sérieux problème de communication ou de coordination de la communication. On n'envoie même personne pour faire un tour des médias pour dire qu'en réalité, voilà le problème qu'on a. Ça voudra dire que le problème qui se passe, enfin, ou ce qu'il y a, ce n'est pas un problème qu'on peut expliquer.
Voilà, qu'on peut communiquer.
Bon, non, on n'est pas.
Au risque d'avoir la honte.
On n'est pas des enfants.
Au risque d'avoir la honte.
On regarde aussi, on
est. On laisse l'homme évoluer.
Bon, maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que dans la nomination de certaines personnes à des postes de responsabilité à la CET, pour éviter ce genre de situation, il faut des gens qui soient véritablement des personnes qui soient au cœur du métier. Il ne faut pas mettre tout le monde n'importe où, quoi. C'est tout ce qui pose problème. Depuis le départ de l'ancien DG Kakati, il y a un DG qui était là, monsieur, le DG Larré qui était arrivé, il a redistribué les cartes avec des postes. On est allé, même allé jusqu'à revoir certains postes, on a créé des postes de sous-directeurs, il y en a beaucoup de choses. Après son départ aussi, le nouveau DG qui est arrivé, enfin qui est arrivé depuis un moment, lui aussi il a redistribué les cartes. On a fait de nouvelles nominations. On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est que on ne peut pas travailler dans une société comme ça, où chacun vient et renverse la boîte et replace ses pions. Non, mais l'électricité, ce n'est pas comme on vend de l'orange au bord de la route. Je suis désolé. Mais quand vous êtes, par exemple, directeur de la distribution, mais on ne peut pas vous changer comme ça. Hein? Parce que vous maîtrisez le process. Quand vous regardez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez dans nos structures, dans nos petites sociétés de PME, PMI, quand on va négocier des financements, le directeur général a l'habitude de dire que quoi ? Que le comptable ne me vole pas. Il est là depuis 10 ans, 15 ans, il ne me vole pas. Bon, il est correct, il fait bien ses comptes, etc. Mais celui chez qui vous demandez le financement, lui, il n'a pas cette conception de la chose. Que votre comptable est fidèle, il est honnête dans les comptes. Lui veut savoir si votre comptable peut venir défendre votre société pour avoir 10 millions de dollars. Est-ce qu'il en est capable ? C'est là la question. Est-ce qu'il est capable de défendre votre société pour signer une convention de financement ? Ce n'est pas le DG qui va le faire. Il faut que lui, en tant que DAF, en tant que comptable, directeur financier, il puisse être à même de porter la structure, d'évoluer dans les process pour décrocher un financement de 10 millions, de 20 millions de dollars. Est-ce qu'il en est capable ? La question, non. Le financier vous dit, je ne peux pas vous prendre. Ce n'est pas une affaire de vol. C'est le même problème qu'on a à la CET. Est-ce que celui qui est là maintenant, ce n'est pas une affaire de on vole ou on ne vole pas ? Non. Est-ce qu'il est correct ? Il est honnête ? Oui. Il est compétent ? Oui. Mais aujourd'hui, on est en crise. Est-ce qu'il est capable de porter la CET pour aller négocier avec les partenaires pour réviser des contrats ? Est-ce qu'il est capable d'aller vers des gens pour dire voilà ce qu'on peut faire, voilà l'alternative qu'on peut trouver ? C'est en cela qu'on reconnaît des vrais managers, les vrais leaders. Je suis quand même, ça veut dire, on ne va pas refaire, réinventer la roue. Mais la situation qu'on subit actuellement, on n'a même pas de voix. Les gens sont dépassés, quoi. Vous comprenez ? Vous êtes à la maison, vous n'avez pas le courant le matin, vous venez au boulot, vous n'avez pas le courant. Vous rentrez le soir, vous n'avez pas le courant. Donc, toute une journée dans le noir. C'est pourquoi j'aime le titre de Flambeau, le noir électrique.
Le noir électrique, hein, justement. Nous voudrons bien sûr... Marla,
une seconde.
Rapidement.
Oui, en fait, dans le prolongement de ce que l'homme a dit, on peut retenir tout simplement que la société, il me semble, en soi, est une société victime des courants d'intérêt. Et ça... Les difficultés que la société traverse aujourd'hui prouvent suffisantes justement cette hypothèse-là. Parce que vous prenez les 10 dernières années, il y a eu assez de directeurs qui sont passés à la tête de la société. À peine quelqu'un arrive, il s'installe, il déploie sa politique, on le déplace en même temps, on le remplace, quelqu'un d'autre vient. Ce qui fait que les gens n'ont pas le temps véritablement d'asseoir une vraie politique de management. Et ça, tout à l'heure, peut-être il est le malheureux, l'actuel, je le connais pas vraiment assez.
Moi, même je le connais pas.
Mais peut-être dans son cœur, il se dira, mais il est pris en étau, hein, parce que peut-être...
Et il laisse passer par...
Voilà, peut-être c'est un courant d'intérêt qui a remporté la main, qui le place là-bas, mais il faut nous gérer la situation. Tu vas apprendre en faisant. C'est peut-être ça. Mais la réalité, c'est que on doit laisser les sociétés d'État agir comme telles, avec des personnes qualifiées. Je ne dis pas que celui qui est là actuellement n'est pas qualifié, mais c'est en son temps qu'il y a assez de problèmes et on en parle. Mais au-delà de tout, ce qu'il faut souligner aussi pour finir, c'est que nos associations de défense des consommateurs, ils font quoi?
On reviendra parce qu'on a tellement épilogué sur le sujet, mais on reviendra là-dessus. En bas, je suis intéressé vraiment par ce sujet qu'évoque aujourd'hui le journal Le Changement, qui parle alors des organisations de la société civile qui mettent en garde les anciens députés dont le mandat a expiré, d'après ce que le journal a écrit, je lis, intégral ce que le journal a écrit. Les OSC mettent en garde les anciens députés dont le mandat a expiré depuis le 1er décembre 2023 contre le coup d'état constitutionnel en préparation et en appel à une mobilisation générale. Alors, est-ce qu'il y a eu un coup d'état constitutionnel qui est en gestation?
Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a des députés unis qui ont eu le courage de crucifier le peuple togolais sur la croix après Jésus-Christ. C'est-à-dire que si je dis ça, je pèse bien mes mots. C'est les félicitations à ceux-là qui ont écrit ça. Parce que vous n'arrivez pas à gouverner. Vous n'arrivez pas à nourrir les Togolais au moins deux fois par jour. Le SMIC, le Togolais, à 52 000. Certaines sociétés n'arrivent pas à payer ça. Au cours des élections, quelqu'un gagne, vous dites que c'est vous qui avez gagné. Maintenant, vous-même, même dans votre, au cours de votre congrès, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous êtes toujours là. Chez moi, en Évée, on dit Pachakpo. Les Pachakpo, maintenant, laissez les autres aussi venir gouverner. Et ce député-là a le courage, par zèle, qu'il veut proposer un certain an. Transformer le Togo en royaume, nous ne sommes plus dans une république. Parce qu'il y a des mois faits en 8 ans. Fora fait 20 ans. Maintenant, on veut transformer quoi? Quel est l'intérêt? En droit, on dit, quel est l'intérêt de cette modification-là? Que les juristes viennent nous dire ça. Parce que ça, là, c'est un coup d'État. Et l'article, je crois que c'est l'article 150, ou un article, demande à ce que les gens réagissent par rapport à ça. Parce que les OSC ont commencé par pondre à travers une déclaration. Ce n'est pas normal. Il y a d'autres Togolais qui sont valablement compétents pour diriger le Togo. Fora a déjà fait deux mandats. Il fait encore deux autres. Maintenant, il veut ramener le compteur à zéro pour recommencer un autre mandat. Je dis non. Et ce n'est pas normal. Que ceux-là qui l'induisent en erreur puissent se retirer et que lui-même il prenne conscience que le Togo appartient à nous tous. Personne n'a le titre foncier sur le Togo. Aucun individu, aucune personne au Togo n'a le titre foncier. Tous nous sommes des Togolais, nous sommes nés au Togo. Que ce soit du nord, du sud, de l'est, à l'ouest, nous sommes des Togolais. Mais personne ne doit faire 5 ans de plus à la tête de l'État. Pire, c'est la même famille. C'est ce que les gens disent. Et c'est ce qui est remarqué. Ce n'est pas normal. Nous, on n'a rien contre Fong Assimbé. Encore moins rien contre la famille Assimbé. Mais nous, notre problème, c'est que moi aussi, je peux être président. Moi aussi, Ambroise Kondjo, né Togolais, 100%, je peux être Togolais. Et pourquoi pas d'autres? Pourquoi pas Kenvi? Pourquoi pas Atiogbe et Polorini? Ce n'est pas normal. Ce qu'ils font là, ils sont en train de foutre en l'air deux générations, voire la troisième génération. S'ils sont en train de m'écouter, ils n'ont qu'à prendre conscience de ce que je dis. Parce que ça, là, c'est un coup d'État. Non seulement un coup d'État, ça touche même à la conscience morale de tout Togolais.
D'accord. Jean Legrand, est-ce que quand on prend, si c'est vrai ou si cela s'avérait que déjà il y a une modification qui est en vue, une modification alors de mandat de 5 à 7 ans qui est en vue, vraiment, est-ce que c'est opportun?
La question que tu me poses prête à sourire, parce que nous avons également appris que le projet de modification est dans les tunnels, mais ce n'est pas encore rendu public. Mais je me pose également la question de savoir est-ce que véritablement les députés vont aller au terme, parce que c'est un député qui a introduit ça. Je me rappelle ce jour là la PA disait que notre assemblée nous montre encore, nous n'avons pas fini de voir les mystères de cette assemblée et nous nous demandons c'est-à-dire c'est pour dire qu'aujourd'hui bien malin est celui qui dira véritablement quelle sera l'issue de cette proposition de loi, parce que on ne sait jamais ce dont les gens sont capables. Actuellement ça peut être rejeté, parce que vous vous rappelez qu'entre temps c'est même un des députés qui avait proposé pour l'Assemblée nationale une présidente tournante, vous vous rappelez, mais ça a été rejeté. Je ne sais pas si véritablement pour ce cas cela va être rejeté ou véritablement les gens vont aller au bout de leurs idées. Mais une chose est qu'actuellement la priorité des Togolais n'est pas que nous allions à 7 ans. Les gens bataillent dur pour qu'on arrive à une limitation de mandat et à 2 tours. Mais est-ce que aller à 7 ans aujourd'hui, est-ce qu'on a une priorité? Vous savez, moi, je dis, les agendas des politiciens sont tout autres parfois que les agendas du peuple. Quand les gens arrivent au niveau de l'hémicycle, il y a beaucoup de présentations, il y a beaucoup de choses qu'on voit. Mais actuellement, nous avons beaucoup d'autres problèmes. Mais si cette modification aboutit, bon, tant mieux, mais pourvu que les textes soient respectés. Mais il faut dire quand même que ce n'est pas la priorité des Togolais à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'autres choses dont nous parlons. L'énergie dont nous sommes en train de parler, si aucun d'eux n'a abordé ce sujet, je ne vois pas pourquoi on va aller jusqu'au septennat.
Seul le référendum. Seul le référendum constitutionnel peut modifier la constitution.
Tout à fait.
La constitution est claire là-dessus.
Et l'homme, est-ce que nous n'avons pas d'autres priorités? C'est vrai que Jean le disait tout de suite que l'agenda même des politiciens ou des hommes politiques est différent hein, par rapport à un certain nombre de choses. Mais est-ce que aujourd'hui la priorité n'est pas ailleurs?
Bon, vous savez, sur ce sujet, moi je n'ai pas encore lu le contenu de la proposition de loi. Et je me garde de tout commentaire jusqu'à ce que je lise exactement ce qui est écrit et ce dont on parle. Parce qu'il me semble que la proposition est actuellement en étude au niveau de la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Tout à fait.
Et je n'ai pas encore le contenu pour juger de ce qui est exactement écrit. Donc quand le contenu sera en notre possession, non, Amboise, on peut découvrir peut-être d'autres surprises dans cette proposition de loi sur la base du fait que ce qu'on disait n'était pas véritablement ce qui est écrit. Donc moi, je préfère prendre beaucoup plus de gants en lisant le contenu et en découvrant exactement ce dont il s'agit en termes de modification.
D'accord, Maroula?
Non, je raisonne également un peu comme l'homme, parce que c'est vrai, le sujet est au centre de toutes les discussions et c'est tout à fait normal parce que, voyez-vous, on parle quand même de 21 projets de loi qui doivent être étudiés par cette législature.
Oui.
Mais si tous les Togolais se focalisent sur un seul projet de loi qui a trait justement à la modification constitutionnelle, c'est parce que on se connaît bien en Afrique, surtout en Afrique noire. Quand on parle de modification constitutionnelle, souvent c'est lié au mandat présidentiel. Et d'ailleurs, et c'est justement au-delà de tout, c'est vrai que moi également, comme l'homme, je n'ai pas encore sous le doigt la mouture justement de ce projet de loi en étude. Mais si les gens en parlent, peut-être les gens ont des briefs d'information, parce que les députés, c'est quand même des gens aussi qui vivent dans la masse. On peut faire fuiter cette histoire. Et donc, je ne dis pas forcément que les gens ne maîtrisent pas ce qu'ils disent, mais je dis, quand tous les Togolais se concentrent sur ce projet de loi en question, c'est parce que véritablement, on se connaît en Afrique. Et franchement, les gens le disent, est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est d'amener le mandat de 5 à 7 ans? Pour le moment, on n'en est pas là. Mais franchement, on a d'autres priorités. Si c'est vraiment ça, je pense que il y a d'autres priorités qui valent mieux la peine enfin, qu'on se concentre sur ça plutôt que de vouloir peut-être modifier la constitution pour rallonger le mandat présidentiel. C'est d'accord. Mon avis personnel.
D'accord, c'est votre avis personnel. Et je pense, en bref, nous allons clôturer hein, ce débat avec ce communiqué alors de l'ANC. Dans un communiqué hein, rendu public ce mardi 12 mars 2024, l'Alliance nationale pour le changement ANC exprime son profond mécontentement suite au rejet par la Commission électorale nationale indépendante CENI des dossiers de candidature de certains de ses membres, et cette décision contestée par l'ANC soulève des préoccupations hein, sérieuses quant à l'équité et à la transparence des prochaines élections législatives et régionales au Togo. Alors, c'est par rapport à certaines listes hein, de l'ANC qui ont été rejetées, et il semble qu'il y a certains noms que le système ne reconnaît pas. Le système, bien c'est sûr...
Bon, moi, je... D'abord, l'ANC a naturellement raison de réagir par rapport à certaines de ces listes qui sont rejetées dans certaines régions, Oti et Agoué et autres. Ah bon, la faute est à qui si certains noms ne sont pas reconnus dans le système? C'est la faute est à l'ANC. C'est l'ANC qui a dirigé les machines.
Et pourtant, lors des recensements, oui, ces noms se sont retrouvés, même d'ailleurs, sur les listes, bien sûr. Mais il semble qu'aujourd'hui, quand on met ces noms dans le système ne le reconnaît pas. Je ne comprends pas.
Tu sais, moi, j'ai toujours dit qu'il y a la pré-fraude. La pré-fraude, ça commence par le découpage électoral. Ça continue par ces arguties-là dont vous parlez. Parce que qui organise le recensement? Qui dispose des cartes d'électeurs? Qui donne ça aux citoyens? C'est la CENI qui donne ça, non? Maintenant, quand on me dit que quand l'ANC se plaint, c'est à raison. Parce que l'ANC n'a pas demandé, ce n'est pas à l'ANC de déterter si la carte est reconnue par telle machine. La machine appartient à qui? Qui a déployé la machine? C'est la CENI qui a déployé la machine. La faute revient aux techniciens de la CENI. Ceux qui ont travaillé, les informaticiens qui ont travaillé, c'est à eux la faute. Et donc, il faut corriger cela pour que ceux-là qui revendiquent à ce que leurs militants se retrouvent sur le fichier, puissent se retrouver sur le fichier, parce qu'ils sont déjà, ils ont arrêté une liste. Maintenant, s'ils n'ont pas de nom à faire remplacer, c'est à eux de voir, puisque les gens sont togolais. Ils ne sont pas des Ghanais, ils ne sont pas des Chinois. Et donc, il appartient à la CENI de corriger à son niveau. La faute n'est pas à l'ANC, je suis désolé.
D'accord.
Et, Jean... et pourquoi c'est seulement à l'ANC qu'ils font ça?
Mais c'est l'ANC qui a fait sortir le
communiqué. Nous sommes dans un contexte où les gens sont prêts à écarter tout ce qui est opposition dans les zones où ils se disent bastion du pouvoir. Vous voyez ça? On veut être seul à compétir dans la zone.
D'accord.
Pour qu'il n'y ait pas de concurrent, pour qu'il n'y ait pas d'adversaire.
D'accord. Jean, avec ce fait, automatiquement, il y a l'ANC qui s'inquiète de la transparence des législatives et des régionales.
Oh, vous savez, c'est son droit, parce que vous savez, quand on va à des joutes électorales, chacun déjà, il faut commencer par tirer le droit de son côté. Quand il y a une faille, il faut commencer par attaquer. Bon, je trouve que c'est de bonne guerre. Mais bon, l'essentiel ici, c'est que du moment où les noms ont été rejetés, moi aussi j'ai été étonné quand j'ai appris la nouvelle, mais du moment où les noms n'ont pas été reconnus par le système et que l'ANC a pu produire d'autres noms pour remplacer, bon, je crois que on peut avancer.
D'accord. Elom, vous avez été aussi surpris par cette information?
Bon, je crois quand même, oui, on l'a appris au niveau de la rédaction. Mais si l'ANC en parle aujourd'hui, il va falloir peut-être se rapprocher de la CENI pour savoir exactement ce qui s'est passé avec ces noms-là. Donc, je crois que le travail revient aujourd'hui à nous tous de peut-être mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Peut-être à la faveur d'une prochaine conférence de presse avec la CENI, on pourra poser la question pour avoir beaucoup plus d'explications.
Là. Oui, non, je crois que l'ANC, sur le coup, a raison de s'inquiéter parce que, voyez-vous, sur la législation en vigueur, vous ne pouvez pas être candidat si vous ne vous êtes pas déjà inscrit. Or, quand on nous dit que les candidats ont leur nom, ils ont leur carte, et la machine ne reconnaît pas leur nom, ça voudra dire que c'est fort probable que dans les prochaines, c'est-à-dire le 20 avril prochain, que beaucoup d'électeurs se retrouvent également dans la situation. Je me dis, donc l'ANC a raison d'émettre ses inquiétudes. Maintenant, on a encore quelques jours, il faut voir. Puisque l'ANC a proposé, même dans son communiqué, qu'on crée un cadre de discussion pour voir comment est-ce qu'on peut régler ce genre de situation.
D'accord.
Et ce n'est pas Enfin, c'est compréhensible.
D'accord, quoi. Merci beaucoup. Je pense que nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat alors de ce matin, puisque nos auditeurs aussi sont à l'écoute et ils vont nous poser des questions ou du moins ils vont réagir sur des sujets discutés ici au Club de la Presse. Et donc, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce jeudi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75. Premier auditeur que nous insérons. Allô. Bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Très bien.
Le nom, c'est
Alain de Cordomé.
Alain de Cordomé. Alain, allez-y.
Oui. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le développement des journalistes. Mais mon inquiétude, ça dit, c'est au niveau du parti RPT qui est devenu unir. Il y a des technocrates dans le parti là, des cadres, des hauts fonctionnaires. Mais ce que moi je me pose comme question là, ça dit, ils sont convenus que ça dit, le seul candidat qui a fini ses 20 ans, continue d'être candidat de leur parti. C'est ça que moi, je ne comprends pas.
Alain ?
Oui.
Ce serait tout ?
Oui, c'est tout.
D'accord, merci beaucoup Alain. 22 21 33 74 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse de ce jeudi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô ? Allô, bonjour. Allô. Il est sorti de la ligne. 22 21 33 114. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Allô. Bonjour, Canal FM.
Oui, comment vous allez?
C'est monsieur Waris, monsieur Gazan.
Oui, Waris, allez-y.
Je salue le plateau.
Oui, le plateau vous salue aussi.
Depuis la HAC. Bon, j'ai fait analyse sur deux sujets. Pour le moment, en ce qui concerne la loi qui est en commission, pour le moment, nous attendons.
Oui, allô, Waris.
Allô, allô.
Oui, allez-y.
Nous attendons le moment arrivé. Le peuple envisagera et va quand même donner ses points de vue sur ce sujet. Mais un avant-goût, c'est que ce compteur est fatigué de revenir à zéro. Maintenant, concernant le problème de la CET, il est souhaitable que le DG de la CET soit interpellé et interrogé, puisqu'il avait à un premier temps tenté de découvrir des entreprises puissantes et des personnalités de haut rang pour que leur facture MP ne soit pas rendue publique. Aujourd'hui, il y a des coupures quotidiennes et c'est pour ce moment qu'on vient nous présenter des choses ici. Mais j'ai écouté vos confrères. Il y a un qui a bien dit que le DG est incapable de toucher certaines personnes. Mais si les gens savent bien qu'ils sont impuissants, s'il est impuissant de toucher ceux qui ont des arriérés avec la CET, il démissionne. Mais quand même, on est à la tête d'une institution, d'un pays, et pas, on ne dirige pas une épicerie personnelle. Maintenant, pour sortir cette histoire de buveur de lait, comme le dit un confrère, moi je pense que nous devons arrêter tout cela. Parce que celui qui a tenu ce propos langage, peut-être ce député les dérange et il faut passer par tous les moyens pour le démotiver. Mais combien d'interpellations, véritablement, n'a pas fait? Et ces interpellations sont restées dans le tiroir. Vous êtes journaliste et vous savez ce que je dis pas là. Avec ces trois députés sur 91.
Oui, merci beaucoup, Harry. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. Allô?
Allô, oui. Bonjour mon directeur.
Bonjour papa Sibiti, comment vous allez?
Tout à va.
D'accord, allez-y.
Mais vous savez, la société, un problème. Les députés, si le président a surchargé, les députés ne peuvent pas interpeller la ministre, le DG et tous ceux qui sont concernés pour que nous ayons l'électricité. Vous êtes en train de travailler, pape. Et le nord du pays, le président, ça, je le remercie pour ce qu'il fait. Mais les dames, on dit, les foyers, c'est les dames. Le premier ministre, la présidente de la santé, qu'est-ce qu'elle dit? Et pour terminer, je prie, madame la présidente, le premier ministre, de nous aider. Pourquoi nous voir notre bassin, il n'a qu'à voir le général de la NASAP les plus bientôt. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa Sibiti, pour votre intervention. 22 21 33 74 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir au Club de la Presse. 22 21 33 74 91 36 63 75. Les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir et participer à l'émission Club de la Presse lors de ce jeudi. 22 21 33 74. Allô?
Oui, allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Je vais bien, c'est Niamavo.
Niamavo, allez-y.
Je salue le plateau, je donne carton vert. Concernant la société, Ferdinand Haïti en a déjà parlé. On va parler
de... Oui, monsieur Niamavo.
Oui.
S'il vous plaît, aussi un peu la voix.
Oui, je dis bien. Concernant la société, Ferdinand Haïti a déjà parlé de ça, on ne va pas revenir là-dessus. Pour les députés dont certains qualifient députés du Vert de l'Est, hier seulement je l'ai dit que M. Guéritama nous avait donné ces briefs d'information au début sur une canal sur une radio sur Victoire FM, comme quoi ils vont chercher à harmoniser la durée de mandat, comme ils avaient donné la communale, 10 ans. C'est pourquoi. Bon, pour moi, c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu organiser les élections à temps pour permettre à ces députés du Vert de l'Est de modifier ça avant que les vrais députés n'arrivent. Ils savent qu'ils ne seront plus majoritaires. Ils le savent bien. Donc, si ils ont pu amener pour les législatives à 6 ans, ils vont proposer 7 ans pour le présidentiel. Ils vont dire que le débat a été houleux et l'Assemblée nationale a réduit ça à 6 ans. Vous voyez, ils sont malins. Donc, que les Togolais soient mobilisés, on est fatigué, les hôpitaux sont en déconfiture, tout, rien, l'économie, ça ne marche plus, l'électricité, on n'en trouve pas, rien ne marche. Si on les laisse encore prendre la législature et les régionales, vraiment, le Togo va vivre.
Merci beaucoup, Niamavo. On a eu vraiment de difficultés à vous écouter. 22, 21, 33, 114. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, oui.
C'est Pélé.
Oh.
Oui, Pélé, allez-y.
Bon, je salue le plateau. Bon, je pense que avec le Togo de Sénégalité et Adéma qui s'affronte à Boulé, c'est d'accord à la balle. Bon, moi, ce que je vais poser comme question, je vais te poser sur la table là-bas. Quelle institution Fognatoulé veut maintenant pour qu'il aille pour bien diriger le pays? Parce qu'à l'époque, on avait dit que, bon, les députés, il n'y avait pas... Ça, il y a blocage. Bon, la CEDEAO était venue pour lui aider et que le policier avait boycotté les élections. 5 ans juste, ils n'ont pas pu faire toutes ces lois qu'ils veulent faire là. Et c'est à la dernière minute avec le mandat de bonus, ils sont en train de faire le manigance. Moi, ce que je veux dire à ce qui concerne la société et tout ça là, je pense que si on amène celui qui a fabriqué l'électricité même, au Togo ici, qui ne peut rien faire dans le régime RPC minier. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, le système même est dérivé. Il n'y a personne. C'est-à-dire, le RPC, c'est un système en place. Ce n'est pas un parti politique. C'est un système en place. Vous voyez? Donc, si on amène celui qui a fabriqué l'RPC, il ne fera rien. Donc, il faut que le RPC s'en aille. Merci.
Merci beaucoup, Pélé, pour votre intervention. 22 21 33 114. Allô?
Allô?
Oui, s'il vous plaît, diminuez le volume de votre pause. Oui, monsieur Kossi de Sabado. Oui, allez-y. Oui, monsieur Kossi, allez-y.
Allô.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Allô.
On vous écoute, Monsieur Kossi.
Oui, je voudrais rebondir par rapport à la CET. Vous savez, nous connaissons déjà ce qui fait le problème. Pourquoi jusqu'à présent, ceux qui doivent à la CET ne payent pas pour qu'on ait le courant? C'est parce qu'ils n'ont pas peur du pouvoir en place. Donc, pour la CET, nous avons déjà la solution. On ne va plus en parler. Et le DG de la CET et le pouvoir savent le jeu qu'ils jouent. Maintenant, concernant le mandat à 7 ans, vous avez... Moi, je voudrais que les Togolais accordent le mandat à 20 ans. Comme ça, on dira que on aura déjà fait un mandat. Comme ça, le problème est réglé. Merci. Bonne émission.
Merci, M. Kossi, depuis Sagbadou, 22-21-33-114-91-36-63-75. Notre auditeur en ligne. Allô? Allô, bonjour. Allô? Allô? Allô, allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Oui, ça va bien. C'est toute l'émission sur Canal FM.
Oui, 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 bien sûr. Vous êtes sur Radio Canal FM. Votre nom, c'est...
Oui. Oui.
Quel est votre nom?
Oui, c'est de la part de Monsieur Karim.
Monsieur Karim.
Oui, j'appelle de ce côté.
D'accord. Allez-y.
Oui, d'accord. Merci beaucoup pour l'émission. L'histoire pourrait éveiller la conscience de tout un chacun. Merci beaucoup. Moi, j'attire la conscience de la population togolaise. J'attends certains auditeurs quand ils rentrent, ils parlent comme s'ils parlent au nom de la population togolaise. Ce n'est pas parce qu'ils rentrent pour parler qu'ils prouvent réellement que c'est ce que la population togolaise parle. Sincèrement, dans la politique, le chef de l'État ne peut pas tout faire. Il fait ce qu'il peut faire, le reste également, il peut ne pas faire. Ce que les gens oublient dans la vie, même dans ta propre maison, il n'y a pas tous tes enfants qui vont t'accepter. Il y a d'autres qui vont voir ton côté positif, il y a d'autres qui vont voir toujours ton côté négatif. Bien sûr, quand les gens veulent parler, c'est un chef de l'État. Ce n'est pas facile aujourd'hui de diriger un pays. Il fait ce qu'il pouvait faire. Mais s'il ne faut pas faire, il ne va pas faire. Mais quand les gens trouvent tout est noir, rien n'est fait, mais moi je suis très désolé si c'est un Togolais. Quand les gens comparent aujourd'hui notre pays par rapport à d'autres pays, ils n'ont qu'à aller voir la misère que les gens souffrent. Mais sincèrement, il faut dire que Forme Yassine fait un travail exceptionnel. Mais s'il y a certaines choses qu'on doit parfaire, on doit l'amener à tout faire. À faire. Mais dès qu'il ne fait rien, ça, c'est un gros problème.
D'accord. Merci beaucoup, Karim. Merci beaucoup, Karim. Depuis Sokodé.
Il y a des choses à tout le monde.
D'accord. Nous n'en manquerons pas. Merci beaucoup, Karim. Depuis Sokodé, je pense que Karim, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Nous revenons en plateau, chers confrères. Nous avons écouté les uns et les autres se prononcer aussi sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Magola, quelle est votre réaction par rapport à tout ce que nos amis auditeurs et auditrices ont dit?
Non, on a constaté tout simplement que la majorité des intervenants sont apesantis justement sur la question principale du jour, c'est-à-dire la question liée au délestage. Et ça voudra dire que ça tient à cœur beaucoup de Togolais. Et si j'ai quelque chose à rajouter, c'est peut-être l'aspect santé publique de ce délestage. Parce que, vous savez, les délaissages, ça détruit les appareils, ça cause assez de dégâts. Mais l'autre aspect qu'on semble ignorer, c'est que pour ceux qui évoluent dans la poissonnerie, par exemple, on coupe, on donne, on coupe, on donne. Naturellement, ça agit sur l'état de conservation des poissons et d'autres produits alimentaires. Alors, si nous allons acheter et manger, qu'est-ce que ça va créer dans notre organisme après? Voyez-vous? Et donc, c'est cet aspect... et santé publique de la chose que je voudrais relever. C'est en cela que je voudrais lancer un appel aux autorités, à la société, de trouver une solution idoine au problème pour que nous puissions vraiment vivre en paix.
D'accord. Merci beaucoup. Et l'homme?
Bon, vous savez, le problème du courant électrique est un problème qui préoccupe tous les Togolais à ce stade. Regardez-nous tous comment on suffoque dans ce studio. Et ça encore, c'est parce qu'on a la chance d'avoir un groupe électrogène qui tourne. Sinon, il n'y aurait pas d'émission. Et je ne sais pas véritablement les dispositions qui sont en train d'être prises pour qu'on puisse remédier à cette situation. Mais vraiment, et encore très sincèrement, je pense qu'on doit quand même prendre des décisions courageuses pour éviter que le Togo ne traverse encore cette situation à l'avenir. Merci.
Jean Legrand, Polérini.
Oui, comme mes deux prédécesseurs l'ont dit, je crois qu'il faut véritablement que de fortes décisions soient prises parce que actuellement, c'en est de trop. Et même en venant dans ce studio, la majorité des feux rouges ne travaillaient pas. Et actuellement, il y a plusieurs quartiers qui sont dans le noir. Et moi, je plains également les policiers. Vous remarquez ces policiers-là, en plein soleil, qui sont en train de réguler la circulation. Parce que les feux tricolores ne marchent plus. Alors, vous savez la chaleur que nous avons actuellement. Et depuis 8 heures, ils sont dans des endroits stratégiques en train de réguler la circulation. Véritablement, qu'il y ait un sursaut et qu'on aille au fond pour régler définitivement ce problème. Quitte à faire mal. Je sais que les gens vont avoir du mal, mais véritablement, il faut qu'on aille au fond. Et je vais inviter les lecteurs du journal à aller lire l'article sur Esso Hampia Balo, qui est un héros oublié. Il s'agit du jeune qui a à lui seul réussi à maîtriser le présumé auteur des assassinats crapuleux qui ont eu lieu à Sotoubois. Et ce jeune, malgré qu'il a une blessure, n'a pas été soigné par les autorités. Et il faut véritablement qu'on salue la bravoure de ce jeune. J'interpelle les autorités compétentes pour que le cas de ce jeune-là soit réglé et qu'il soit vraiment remercié et récompensé pour son geste de bravoure qu'il a fait. Parce que, n'eût été son action, ce présumé coupable continuerait sa liste macabre en assassinat.
Merci beaucoup, Jean Legrand. C'est un article à lire dans votre journal Canal D, paru ce matin.
À la page 5.
À la page 5, bien sûr. Oui, Ambroise.
Oui, moi aussi, j'ai un article qui est au bas de page de mon journal qui concerne le ministère de l'Enseignement supérieur et les fameux examens que le ministre veut imposer aux établissements privés. Puisque au départ, c'était les deux. Les publics et les privés qui s'étaient concernés. Mais comme les publics ont refusé, il s'est acharné contre les privés. Et, sauf qu'il y a un élément nouveau. Le décret dont il parlait n'était pas signé. On l'avait dit ici. Maintenant que le décret est signé et renvoie le ministre ou en 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un article 30 que le décret comportait qui disait clairement, en ces termes, si je me retrouve, tu permets, que le présent décret entre en vigueur à partir de la rentrée académique suivant l'année de son adoption. Le décret est adopté en janvier 2024. Donc, normalement, naturellement, ce dont la décision dont parle le ministre devait être mise en œuvre en 2025. Et le décret poursuit, en attendant son application effective, l'évaluation des étudiants inscrits dans les établissements privés d'enseignement supérieur est assurée par leur établissement respectif suivant les modalités les modalités en vigueur durant l'année académique en cours à la date de la signature du présent décret. Et le décret est signé en janvier 2024 par le chef de l'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre Kokoloko, le secrétaire général de la présidence et consorts. Et donc, ça veut dire que tout ce que le ministre faisait, c'est d'amener les gens à l'abattoir rapidement cette année. Alors que le décret même ne fixait pas qu'on organise un examen à la charge cette année en même temps. Parce que c'est lourd. Non seulement c'est du lourd, c'est compliqué à faire.
D'accord.
Et comment il va s'y prendre? Nous le relevons dans l'article parce qu'il doit consulter.
Voilà, c'est un article à lire.
Les acteurs avant de 2025.
C'est un article à lire alors dans votre journal des Guardians, paru aujourd'hui. Je reste avec vous pour le carton de fin d'émission rapidement.
Oh, moi, mon carton, oui. c'est un rougissant.
Oui.
Le carton rougissant, devinez à qui ce carton est envoyé. C'est au porteur de ce projet de modification constitutionnelle du Parti Uni.
Merci beaucoup. Magla, carton de fin d'émission.
Non, moi, mon carton, il est vert et je le dédie à la direction de Radio Canal FM qui, malgré le délestage et les inconvénients, a su tourner la radio. Aujourd'hui, l'émission a eu lieu grâce à un groupe électrogène. carton vert. Félicitations.
Merci beaucoup. Je pense que nous avions vécu la même situation hier aussi. Hein. Oui,
alors. Carton vert à tous ceux qui nous ont écoutés.
Merci beaucoup. Jean Legrand Polérini.
Oui, carton vert à toutes et à toutes celles qui nous écoutent, à ces policiers qui sont dans la circulation actuellement à l'heure où nous n'avons pas d'énergie électrique et qui sont en train de réguler la situation. Carton vert à eux. Je profite également pour saluer deux personnes.
Rapidement.
Boutib Moni Michel, qui est cadre à l'UTB, et l'ancien combattant Kossi Kileu Kadianga.
D'accord, merci beaucoup, chers amis, auditeurs, auditrices, bien sûr. Le grand carton vert, bien sûr, c'est à vous, hein, chers confrères, qui avez animé cette émission dans cette condition, bien sûr. Hein, au mois donné, je voyais même d'ailleurs des gens se transpirer. Et aussi, j'ai vu Ambroise, entre-temps, qui a enlevé sa veste parce qu'il n'en pouvait pas. Et donc, merci beaucoup à vous, vous aussi qui nous avez écoutés. Merci à vous tous qui nous avez écoutés, bien sûr. Merci à Michel Toméga, derrière la baie vitrée, et qui a assuré la mise en onde de cette émission. Merci à Jérôme Dakoucha qui a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Losso. Je vous retrouve demain à 11h pour un nouveau numéro de Club de la Presse. Portez-vous bien.